rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple qui célèbre au désert une fête en mon honneur. » Alors là, frères et sœurs, quand on lit ce verset-là, on peut être assuré qu'il y a une dure bataille qui vient de commencer, une bataille qui est spirituelle, qui se fait une bataille spirituelle avec les forces diaboliques de ce monde. Et comment va réagir le Pharaon en apprenant cette nouvelle quand Moïse va aller trouver Pharaon pour lui dire, « Laisse, le Dieu d'Israël vient de te dire ceci, le message du Dieu d'Israël, c'est le suivant, « Laisse aller mon peuple pour qu'il aille célébrer dans le désert une fête à mon honneur. » Comment réagit ce monde lorsque le chrétien prend le chrétien prend la décision de fuir la cité de destruction? Le simple fait de vouloir être libéré de toute forme d'esclavage va amener les oppresseurs de ce monde à tenter de lier ceux qui sont esclaves avec des chaînes encore plus fortes. Les chefs de corvée et les contremaîtres recevront des ordres pour prendre toutes les mesures pour que la production du péché qui était produite dans le pays, dans la maison de la servitude, double, afin d'amener les gens à gémir sur le poids insupportable de la servitude. Vous n'avez peut-être pas compris grand-chose pour tout de suite, mais je devais le dire, c'est l'introduction, n'est-ce pas? Et on va lire deux versets, les versets 23 et 25 du chapitre 2 dans Exode. On va mieux comprendre. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Et ces trois versets-là, ils peuvent s'appliquer très, très, très bien à nous aujourd'hui, à ceux qui encore aujourd'hui, eh bien, comme les enfants d'Israël, gémissent encore sur la servitude, gémissent parce qu'ils sont pris dans la drogue, parce qu'ils sont esclaves d'un péché quelconque, parce qu'ils sont, esclaves, ils sont enchaînés dans leur cœur par un péché qui les ronge de l'intérieur. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Il y a des gens qui sont esclaves d'un péché, qui crient pour en être libérés. Et ici, ce qui est béni, hein, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Frères et sœurs, Dieu se souvient. Dieu se souvient, il entend, il vous entend. Et Dieu se souvient de vos gémissements, si c'est votre cas ce matin. Et il se rappelle de son alliance qu'il a mis en place à travers la personne de Jésus-Christ. Et quiconque vient devant le Seigneur Jésus-Christ, quiconque apporte son péché devant le trône de la grâce de Dieu, quiconque se présente au pied de la croix de Jésus-Christ, eh bien, la parole, elle est claire, peut recevoir la liberté, la libération de son péché, être libéré de l'esclavage dans lequel le péché l'a amené. Amen. Ça, c'est vraiment important. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Et encore aujourd'hui, celui qui s'approche du trône de Dieu, Dieu est toujours un Dieu qui a compassion. Dieu est toujours un Dieu qui a compassion. Ça s'applique encore aujourd'hui pour nous. Quelle belle application spirituelle pour nous aujourd'hui. Oui. Pourquoi là, ça s'applique encore aujourd'hui? Parce que le peuple d'Israël, c'était des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Le peuple d'Israël était esclave du Pharaon qui représente le monde. Nous sommes des êtres humains qui, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sommes esclaves de certains péchés dans le monde. On est en tout cas sous l'emprise du malin. Le Seigneur Jésus, il ne va pas par le dos de la cuillère. Il dit simplement qu'on a pour père le diable. Alors, il ne tourne pas en rond. Hein. Il dit qu'avant de le connaître, on a pour père le diable. Mais maintenant, l'échange qui se fait à la croix, eh bien, on laisse tomber le père, notre père qui est le diable, pour recevoir, eh bien, à travers Jésus-Christ, eh bien, faire partie de la famille de Dieu et recevoir comme père, eh bien, le Créateur de l'univers. Bonne nouvelle, ça, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle, hein? C'est encourageant, hein? C'est encourageant. Et frères et sœurs, ça, c'est également vrai dans la vie de chaque chrétien. On ne pense guère au péché ou à la tentation tant aussi longtemps que le cœur s'en écarte. Un homme du monde a dit un jour que la façon de surmonter la tentation, c'était de céder à la tentation. Il n'y a pas un gros combat, hein? De son point de vue, c'était la meilleure façon de s'en sortir. Tant et aussi longtemps que vous baignez dans le péché, que vous vivez dans le monde, que vous suivez la voie la plus facile, que vous ne recherchez pas à résister et que vous succombez à toutes les tentations, vous ne trouverez jamais la bataille trop difficile. Mais lorsque vous décidez d'affronter le mal, lorsque vous décidez de rompre la chaîne qui vous maintenait captif, vous verrez alors jusqu'à quel point la chaîne de l'esclavage est doublement oppressante et irritante. Vos anciens amis qui sont dans le monde viendront peut-être vous voir pour essayer de vous faire changer d'idée ou de ne pas agir trop vite parce que vous vivez une crise d'identité spirituelle. Ça vous est déjà arrivé, ça, quand vous êtes venu au Seigneur? Merci, Marie-Paul. Elle s'en rappelle parce que c'est récent, votre conversion, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est ça que le monde, hein? Le monde, on est mieux qu'avant, On est complètement différent. Pourtant, les gens, ils disent, ouais, tu vis une crise, c'est un problème, et ainsi de suite. Et on essaie de nous ramener, quoi. Et le pharaon, si vous allez voir la tactique du pharaon, eh bien, ce sera la même qu'aujourd'hui. Il va essayer de garder le peuple d'Israël esclave sous son joug, et ainsi de suite. Non seulement le pharaon n'a pas laissé partir les Israélites, mais quand Moïse est venu le voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté leur charge de travail. Hein? Exode, chapitre 5, si vous lisez les 19 premiers versets, c'est ce qui se passe après avoir rencontré Moïse. Frères et sœurs, le monde n'est pas intéressé à vous laisser partir. Le monde n'est pas intéressé à vous laisser partir. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Est-ce que vous êtes convaincus que le diable n'est pas intéressé à vous laisser partir? Ben oui! Et Pharaon, il personnifie tout ça. Il personnifie le monde. Il personnifie le diable de son époque. Il n'est pas intéressé à laisser partir les gens. Il n'est pas intéressé à faire en sorte que les gens se libèrent de leur esclavage, peu importe l'esclavage dans lequel ils baignent. C'est plutôt le contraire. Voilà pourquoi le chemin de la liberté, de la délivrance, est rendu doublement plus difficile pour celui qui veut s'en sortir. Et regardez la tactique du pharaon de l'époque, elle n'a pas changé, c'est la même aujourd'hui. Regardez, on va lire les versets. Exode, chapitre 5, versets 8 et 9. Moïse, il vient d'aller rencontrer le pharaon, il demande qu'on y libère. Et là, ben, le pharaon, ça l'a, il n'a pas trop aimé. Il ne veut pas perdre de sa main-d'œuvre à bon marché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va imposer encore plus de labeur aux Israélites. Regardez versets 8 et 9. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ah, c'est pas bon ça. Je suis pas dans le bon chapitre, moi. Voilà. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. « Car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie, c'est-à-dire l'Israélite, en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Frères et sœurs, c'est quoi les paroles de mensonge ici? C'est quoi les paroles de mensonge ici? Ça concerne la religion. Aller adorer Dieu à l'extérieur. Frères et sœurs, notre monde aujourd'hui, pour que les gens ne pensent pas à la religion, pour que les gens n'entendent pas parler de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? On les fait travailler, les gens, aujourd'hui. La femme travaille, l'homme travaille, tout le monde travaille. Ensuite de ça, quand ce n'est pas suffisant de travail, eh bien, on augmente les heures de plaisir pour que les gens ne pensent pas, justement, à ces mensonges. Quelle est la parole de Dieu? Ça n'a pas changé, hein? Le plan de Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi il dit ces mensonges? Ouais. Dieu, oui, Dieu veut vraiment, Dieu les aime vraiment, il veut qu'ils sortent de mon... Oui, il veut qu'ils soient libérés, puis qu'ils aillent le louer, qu'ils aillent le prier, qu'ils aillent l'adorer, qu'ils aillent offrir des sacrifices. Mais ce sont des mensonges, c'est une excuse, ce sont des paresseux. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils veulent quitter l'Égypte. Oui, et c'est la même chose aujourd'hui. C'est encore la même chose aujourd'hui. On essaie de surcharger les gens, pas nécessairement de travail, mais de plaisir. Pour que les gens n'aient pas le temps de penser à Dieu. Pour que les gens n'aient pas le temps de penser aux choses religieuses. On est dans la même situation aujourd'hui. Oui. Et quand il y a une religion qui recommence à monter un petit peu trop haute, on essaie de la démolir. On essaie de salir la réputation de la foi chrétienne. Frères et sœurs, le plan, la technique du pharaon n'a pas changé. C'est la même aujourd'hui. C'est la même depuis toujours, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas vous laisser partir. Les Israélites étaient incapables de se libérer eux-mêmes du joug de l'Égypte que représente le monde, ici. Et au milieu des briques, ils travaillaient dans les larmes et dans l'agonie, écrasés sans espoir et impuissants. Leur lutte mettait en lumière leur servitude, leur peine et leur souffrance, mais constituait également une preuve de leur impuissance face à un ennemi si puissant. Leur délivrance devait venir de l'extérieur, frères et sœurs, et elle devait venir de la main du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Et c'est la même chose pour le chrétien, c'est la même chose pour celui qui est esclave d'un péché aujourd'hui. Votre aide, elle doit venir de l'extérieur. Oui, vous devez crier au Seigneur Jésus-Christ qui vient de vous délivrer. Lui seul est capable de vous délivrer. Le diable, il n'y a rien qui fait plus plaisir au diable d'avoir quelqu'un qui est esclave de quelque chose et qui essaie de s'en sortir lui-même. Ben, si vous êtes enchaîné, hein, ben, vous n'êtes pas capable d'enchaîner, de prendre la clé puis d'ouvrir, de vous déverrouiller pour partir. Ça prend quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous déverrouiller. Et celui qui déverrouille toutes les chaînes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment important, ça. Mais si le Seigneur Dieu a pris sur lui de libérer son peuple des Égyptiens, Il le fera aussi pour toi, mon frère. Il le fera aussi pour toi, ma sœur, si tu te laisses faire, si vous les laissez faire. Lorsque vous décidez de renoncer à vivre dans le péché, lorsque vous décidez de résister à la tentation et de renoncer à la manière de vivre de ce monde, appuyez-vous sur le Seigneur et comptez sur lui. Il se tiendra à vos côtés et il ne vous quittera jamais les yeux. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le Dieu que moi, j'adore. Ouais. Et non seulement il ne me quitte pas des yeux, mais quand je fais quelque chose de mal, laissez-moi vous dire que parce que je lui appartiens, il ne me laisse pas tranquille, il vient me châtier parce que celui qui aime bien, châtie bien. Ouais. Le Dieu que je suis en train de vous parler, ce n'est pas un étranger pour moi, c'est mon Père. C'est celui qui a eu pitié de moi, c'est celui qui a eu compassion de moi, qui est venu chercher dans ma boue, qui m'a sorti de la boue, qui m'a lavé par le sang d'un agneau. Et aujourd'hui, bien, je peux rendre grâce que ce Dieu a eu compassion de moi et qu'il continue à me maintenir la tête hors de l'eau, grâce à la croix. Amen. Vraiment important, ça. Vraiment, vraiment important qu'on puisse être stimulé par... C'est pas un message facile le matin. Vous allez voir les compromis, les quatre compromis que le Pharaon vient apporter, c'est les mêmes compromis que le diable vient glisser dans vos vies pour vous freiner, pour que vous sortiez les rails et que vous soyez tout seul, dépourvu de toute aide, parce que vous aurez tombé dans les compromis, dans les tentations que le diable vous aura apportées. Les chapitres 7 à 12 du livre de l'Exode décrivent les horribles plaies qui sont tombées sur l'Égypte, et ce, immédiatement après que le Pharaon eut refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Chaque visite de Moïse et d'Aaron avait un but, et chaque intervention de Dieu était un jugement contre les faux dieux des Égyptiens. Et on va en regarder quelques-uns. On ne peut pas regarder toutes les plaies, mais on va en regarder quelques-unes. Chacune de ces plaies était un coup de poignard enfoncé dans le cœur même de ces soi-disant petits dieux qui étaient supposés protéger l'Égypte. Le Nil était un fleuve sacré qui avait un nom sacré et il était adoré comme un dieu. Mais quand ses eaux ont été changées en sang, elles ont ouvertement exhibé l'impuissance du dieu du Nil. Les Égyptiens avaient une déesse sous la forme d'une femme à tête de grenouille qui s'appelait Eke. Elle représentait la vie. Sa tâche consistait à protéger l'Égypte, des grenouilles. Mais le Dieu Tout-Puissant va faire monter les grenouilles qui couvriront toute l'Égypte. Peu importe où habitaient les gens, il y avait des grenouilles partout. Personne ne pouvait y échapper. On en trouvait dans les vêtements, on en trouvait dans les lits, on en trouvait dans les tonneaux, on en trouvait dans la nourriture. Il y en avait partout et la déesse Eke ne pouvait rien faire. Dieu demanda à Moïse d'étendre son bâton et de frapper la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière, là c'est pas moi qui le dis, toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Ça veut dire que c'est un nuage, on voyait absolument rien, quoi. Absolument rien, c'est comme un vent, là, une tempête de sable dans le désert. Les magiciens vont employer leur enchantement pour détruire les poux, mais ils seront incapables d'agir. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens vont dire à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Exode chapitre 8, verset 15-19. Mes frères et sœurs, les magiciens, ils n'avaient pas encore vu la main de Dieu agir sur l'Égypte. Ils vont simplement dire, c'est le doigt de Dieu. Mais Dieu va venir mettre sa main sur l'Égypte, frères et sœurs. Et vous le savez comme vous et moi, si vous êtes nés de nouveau, quand Dieu met la main sur vous, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Amen. Quand Dieu met la main sur vous, en tout cas, quand il met la main sur moi, je peux vous dire une chose, je la sens, ce n'est pas une main d'homme que je sens. Et ce n'est pas nécessairement pour m'écraser, c'est aussi souvent pour me sortir, quoi. Parce que je suis en train de m'embourber, et il est en train de me sortir. Il aime dire, c'est pas ta place, là. Allez, c'est pas ta place, allez. Il me ramène parce que je suis en train de quitter le droit chemin. Ouais, la main de Dieu. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu ne doit pas se contenter que Dieu mette son doigt. Comme E.T. Ceux qui connaissent E.T. Mais la main de Dieu, frères et sœurs, la main de Dieu, elle est puissante. La main de Dieu, Dieu tient l'univers dans sa main. Ouais. Alors, vous imaginez qu'il y a de la place pour s'occuper de nous. S'il est capable de tenir l'univers dans sa main, eh bien, quand Jacques Hudon, il vient de le mettre dans sa main, eh bien, frères et sœurs, il peut très bien s'occuper de Jacques Hudon, mieux que Jacques Hudon peut s'occuper de lui-même. Ensuite, Dieu va envoyer les mouches venimeuses ou vénéneuses. Il vint une quantité de mouches, nous dit le texte biblique, dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Les poux et les mouches dérangèrent le culte, tout le culte égyptien. Les prêtres voulaient adorer leurs idoles, et leurs idoles étaient remplies de poux, remplies de mouches. On avait difficulté à voir le visage, à voir la forme des faux dieux
tellement qu'elles étaient recouvertes de pouille de parasites. Les bêtes sacrées luttaient pour se débarrasser des mouches venimeuses. Les prêtres eux-mêmes et tout le peuple, les cours du temple et tous les vases sacrés qu'ils utilisaient pour leur culte avaient été rendus impurs par cette invasion de poux et de mouches. Les magiciens égyptiens, recoururent à leur pouvoir pour chasser les mouches et les poux, mais sans succès. Les poux continuaient de s'attaquer aux hommes et aux bêtes. Exode chapitre 8, verset 16-31, si vous voulez lire la suite à la maison. Frères et sœurs, dans chacune des plaies que Dieu a envoyées en Égypte, il y a eu un combat, il y a un combat spirituel derrière ça. Moi, je trouve ça magnifique. Et ça se passe dans l'invisible, ça se passe dans le spirituel. C'est le Dieu Tout-Puissant qui va s'attaquer à chacune des déesses, à chacun des petits dieux qui régnaient en Égypte. Il va leur montrer qu'ils ne sont rien, qu'il n'y a aucune vie dans ces dieux-là, qu'on n'a pas à mettre notre confiance dans ces petits dieux-là et dans ces petites déesses-là. Et il va s'attaquer à travers chacune des plaies, à chacune des déesses, à chacune des dieux qui, soi-disant, étaient là pour défendre, pour rendre fertile et ainsi de suite. Il va donner un coup dur aux prêtres et aux cultes sacrificiels égyptiens. Finalement, le Seigneur Dieu va s'attaquer au Dieu soleil lui-même. Et le soleil, c'est intéressant parce que c'est le Dieu de tous les dieux pour les Égyptiens. C'est considéré pour les Égyptiens, par les Égyptiens, comme étant le créateur de l'univers. Et il s'appelait Ra. Ra, R-A-R-A-T, mais Ra. Une ville sacrée portait son nom. Et le roi des Égyptiens représentait le Dieu soleil sur terre. Et on incorpora son nom dans celui du roi d'Égypte qui s'appelait Pharaon. Donc, le Dieu soleil, c'est Ra, Pharaon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, eh bien, le Pharaon était considéré comme le fils de Dieu. Il était considéré comme étant le représentant de Dieu sur la terre et même plus que ça, l'égal de Dieu. À travers le temps, il est devenu l'égal de Dieu. Pharaon. Que va faire l'Éternel? Il va faire en sorte que l'obscurité recouvre toute l'Égypte. Il va faire en sorte que le soleil disparaisse. Exode chapitre 10, pour ceux qui ont leur Bible, versets 21-23. Dieu va faire disparaître le soleil. C'est dans le texte hébreu, c'est Dieu va effacer le soleil pendant une certaine période. Et où était le Dieu Ra? Eh bien, où étaient les prêtres de Ra? Où étaient les représentants de Ra sur la terre? Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 2, chapitre 4, versets 4 et 5. Celui qui siège en les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Frères et sœurs, c'était un combat entre le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant qui vit et règne dans les cieux et les faux dieux qui amènent les hommes à devenir idolâtres et contre les ténèbres de ce monde. Si j'avais juste à faire un commentaire sur ces plaies, ce serait celui-là suivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Malheur à la nation ou au peuple ou à celui qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Pour lui s'ajoutent toutes les plaies écrites dans le livre de l'Apocalypse. Toutes les coupes de la colère de Dieu seront un jour versées sur lui. Malheur à l'homme qui oublie Dieu ou qui suit un petit Dieu fabriqué par ce monde. Le peuple de Dieu était en Égypte, loin de Canaan, qui était le pays que Dieu avait promis de leur donner. Et pour l'instant, ils vivaient dans le pays où régnait le péché et les ténèbres, soumis à une cruelle servitude imposée par des chefs de corvée qui étaient intransigeants. Ils étaient incapables d'adorer Dieu comme ils le demandaient. Et en tant qu'esclaves, ils étaient sans défense. Et je me souviens d'une prédication de notre frère Ernest, ça doit remonter à pas loin de 5-6 ans, qui disait que celui qui vit dans le monde, devrait réaliser, ou celui qui vit avec les valeurs du monde, devrait réaliser que le monde, c'est un maître intraitable, c'est un maître sans pitié. On ne vit pas dans le monde et on n'en ressort pas sans avoir des séquelles. Le monde, il est impitoyable. Le monde, il est vraiment impitoyable. Il y a combien de filles, jeunes filles, pour avoir perdu leur virginité, pour avoir essayé un soir avec un garçon, ont commencé une vie de débauche sans savoir et sans vouloir, mais qui sont rentrées dans un entonnoir incroyable. Et qui ont fini dans des vitrines, qui ont fini sur le bord des rues. Ouais. Vous leur auriez dit ça avant de faire la première fois, ils vous auraient dit « t'es malade, hein? » C'est impossible pour moi. Ouais. Je connais des jeunes garçons, moi, qui ont commencé simplement à prendre une bouteille de bière. Hein? Ouais. Ouais. La bouteille de bière, ils la contrôlaient bien. Hein? 20 ans après, je les ai rencontrés. Hein. C'est la bouteille de bière qui les contrôle maintenant. Ce sont des épaves. Ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de chair. Quoi. Ils n'ont plus de forme. Les fesses sont disparues parce que la bière a mangé leur graisse. Quoi. Ils n'ont plus rien. Quoi. Et qui font des thérapies par-dessus thérapie par-dessus thérapie. Il y a un dicton qui dit, prenez garde à la première bouteille de bière que vous buvez. Prenez garde à la première coupe de vin que vous buvez. Et dans les proverbes, on nous avertit pour le vin. Hein? On nous avertit. Hein? C'est comme un aspic à un moment donné. Ouais. On le regarde, il est beau. Et c'est comme une séductrice. Hein? On le branle un peu, on voit qu'il y a quelque chose qui reste. Et tôt ou tard, finalement, nous sommes séduits par la couleur du vin. Le goût, souvent, on ne le goûte même plus quand on est esclave du vin, quand on est esclave de la boisson, quand on est esclave de la drogue. Ouais. Il y a le fentanyl là, qui court au Canada, là, ce qui fait des morts, mais des morts, des morts. Moi, si j'étais quelqu'un qui consommait de la drogue aujourd'hui, j'arrêterais d'en consommer. Hein, parce que les pocheurs en mettent juste un petit soupçon à travers la cocaïne, à travers l'héroïne. Hein. Ben, si, et simplement pour qu'on ait une dose encore plus forte. Il y a des gens qui meurent d'overdose, quoi. C'est 100 fois plus fort que l'héroïne. Et à un moment donné, on n'est pas capable de le supporter. Frères et sœurs, si vous aviez dit au petit gars, écoute, moi j'y penserais deux fois avant de fumer un joint. Ben non, un joint, écoute, tu ne peux pas aller plus loin qu'un joint. Hein. Ouais. Allez parler à tous ceux qui sont morts d'une overdose. Si on ne peut pas aller plus loin qu'un joint dans notre vie. Dieu va envoyer Moïse pour les libérer de la servitude et les faire entrer dans la terre promise. Qu'arrive-t-il alors lorsque nous commençons à abandonner le pays d'Égypte, lorsque nous commençons à nous rapprocher de Dieu, lorsque nous commençons à marcher dans la direction de Canaan? Le monde, la nature, l'humaine et le diable font tout en leur pouvoir pour nous amener à faire des compromis. Le diable ne veut pas vous laisser partir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dieu envoya Jésus pour nous libérer. Regardez Romains chapitre 6. Ça, c'est des beaux signes de la nouvelle naissance. Regardez, Romains chapitre 6, versets 7 et 22. Dommage, je n'ai pas ma français courant aujourd'hui, mais je l'ai laissé à la maison, mais bon. On va essayer de le traduire du mieux que je peux en français courant. Chapitre 6, verset 2, okay, on va commencer là. Hein. Ouais. Ah bon, on peut même commencer là. Hein. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'épître de Jacques. Udon, c'est l'épître de Paul. Regardez. Comment, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Libre de dire non à chaque fois au péché. Et quand on dit oui au péché, si on est né de nouveau, mettons pas ça sur le dos du diable, c'est ma faute, ma faute, ma faute. Il faut commencer à assumer nos responsabilités, hein? Verset 22. Mais maintenant, étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu. Alors, on va le changer. Mais avant d'être libéré du péché, j'étais esclave du péché et j'étais, oui, j'étais libre de Dieu, mais j'étais esclave du péché. Mais regardez ce qu'il dit. Mais maintenant, étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, regardez maintenant c'est quoi les fruits de la nouvelle naissance. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Les fruits de la sainteté, c'est quoi, frères et sœurs? C'est les fruits de l'Esprit. C'est le caractère de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas né de nouveau, là, il peut s'être repenti, il peut s'être converti, il a fait un pas de foi, mais il n'est pas né de nouveau. Il y a combien de gens ici, là, à qui j'ai parlé, hein, depuis 17 ans, faisait 10 ans qu'ils étaient baptisés, qu'ils prenaient la Sainte-Seine, qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Et à partir du moment où ils sont nés de nouveau, quel changement, quoi! On ne les reconnaît plus. Et ce n'est pas l'œuvre de Jacques Hudon, hein? C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Oui. Hey, ces trois versets-là, ça résume tout, hein? Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, est-ce que ta vie, elle reflète le caractère de Jésus-Christ? Est-ce que tu as pour but, est-ce que tu as le but dans ta vie, c'est que tu vises la sainteté? Parce que c'est ça, être né de nouveau. Tu vises à aller chercher les mêmes choses que Jésus vivait. C'est pas parce que ça fait 50 ans que tu viens à l'Église que tu es né de nouveau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, est-ce qu'il y a eu un changement radical dans ta vie? Même si ça fait 50 ans que tu vis dans l'Église. Il y en a qui me disent, oui, mais moi je suis né dans l'Église, hein, j'ai pas de gros changement. Hey, le changement de caractère, là, les gens le voient, hein? Ils le voient, hein? Vous savez, vous pouvez faire 50 ans dans l'Église sans jamais reconnaître, sans vous être jamais repenti. Pourquoi? Parce qu'on vous a poussé à vous faire baptiser à 14 ans. Parce que le gars de la voisine, il se faisait baptiser, c'est à ton tour. Sans vraiment calculer, oui, mais est-ce que moi, je me suis vraiment reconnu comme étant un pécheur, quoi. Aussi perdu que le plus débauché des débauchés dans le monde. Parce que c'est ça la réalité, hein. C'est pas une bonne personne qui vient au Seigneur, hein. C'est un pécheur qui vient au Seigneur, hein. Oui, hein. Et je le dis, je le répète aujourd'hui, hein. Les plus difficiles à convertir, c'est pas ceux de l'extérieur. Nous, on pense que c'est difficile parce qu'on va pas les trouver. C'est ceux qui sont dans l'Église. Je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent jamais le message le dimanche, hein, parce qu'ils sont déjà rendus très haut, hein. Mais en même temps, je sais qu'ils sont nulle part. Hein. Vous savez, quand on est nulle part, c'est quand on pense qu'on a tout atteint, hein, qu'on sait tout. Hein. Il y a des gens dans nos églises qui sont comme ça. Hein. Oui. Ouais. Et qui sont toujours esclaves de leur caractère. Et leur caractère, c'est celui du premier Adam. Hein. Et la nouvelle naissance, elle veut nous amener à lâcher, fait, débarrasser, libérer du caractère du premier Adam pour nous amener, comme Paul dit dans Romains, à vivre selon le dernier Adam. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner. Je ne vous dis pas ça pour vous juger. Je vous dis ça parce que je vous aime et je voudrais que vous passiez l'éternité avec moi. Je voudrais que tout le monde puisse passer l'éternité avec moi. Voilà. Voilà. Pourquoi Jésus nous a dit que l'enfer existait? Il n'y en a pas un comme Jésus qui a parlé de l'enfer. Pourtant, on dit, oh, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Bien, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a parlé de l'enfer. Parce qu'il y en a un qui ne nous aime pas et qui essaie de faire croire au monde que l'enfer, ça n'existe pas, c'est le diable. Hein? Et Jésus, s'il ne nous avait pas aimés, il n'aurait jamais prononcé le mot enfer. Mais je vous mets au défi de lire dans toute la Bible, il n'y a pas personne comme Jésus qui a autant parlé de l'enfer. Et il connaissait très bien le sujet, c'est lui qui l'a créé. Ouais. Frères et sœurs, on n'est pas... Il y a le foot, il y a le basket, il y a le cricket, mais l'Église, ce n'est pas un sport. Hein? Non. Quand on rentre dans l'Église, on n'est pas là pour faire... On n'est pas là pour embarquer dans un nouveau sport. Hein? Ouais. On entre dans le royaume de Dieu. On est comme chef Jésus-Christ. Et le Seigneur, il veut qu'on lui ressemble. Et le Seigneur, à travers la croix, il nous libère. Est-ce que tu es libéré ce matin, mon frère et ma sœur? Ouais. Sans t'accuser, sans te condamner, tu peux faire des prières qui vont péter le plafond. Hein? Mais les pharisiens en faisaient de belles prières. De belles prières. Et Jésus leur a dit, nettoyez donc la coupe, l'intérieur de votre coupe, ça pue le mort, ça sent le cadavre. Parce que tu n'es pas né de nouveau, mon cher pharisien. Ouais. Ouais. Et ici, ils étaient incapables d'être libérés si ce n'était pas Dieu qui intervenait. Et on est incapable d'être libérés du péché, de l'esclavage dans lequel on se trouve, si Dieu n'intervient pas dans notre vie. L'intervention, elle doit venir de l'extérieur par nos propres forces. On est incapable. Tout ce qu'on fait par nos propres forces, c'est qu'on brasse le caca. C'est tout ce qu'on fait. Et le Seigneur, il veut enlever ça, tout ça. Ouais. Et regardez la misère dans laquelle il se trouvait. Maintenant, vous pensez que le pasteur est en train de divaguer? On n'aura pas le temps de finir le message, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur. Parmi tous les Israélites qui sont sortis, parmi tous les Israélites qui ont vu les miracles, il y en a combien, théologiquement parlant, qui sont nés de nouveau? Caleb, Josué et Moïse. Regardez-les, les millions, là. Regardez combien il y en a là. Ouais. Trois qui sont rentrés dans la terre promise. Pas Moïse, il l'a vu. deux qui sont rentrés dans la terre promise. Et ils ne sont pas rentrés les autres parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et c'est sérieux, frères et sœurs, hein? C'est sérieux, quoi. Et le pire, c'est qu'on fait partie de la même race. Je ne vous dis pas qu'il va en avoir trois si le Seigneur venait nous chercher ce matin, mais on fait partie de la même race. Hein? L'Église est dans un état de déconfiture totale. Je parle avec des gens, pourquoi ils ont changé d'Église pour aller là? Parce qu'on s'amuse bien. Hey! Parce qu'on s'amuse bien. On ne va pas à l'Église parce qu'on s'amuse bien. L'Église, ce n'est pas une place d'amusement, quoi. L'Église, c'est une place, je ne l'ai pas lu dans le psaume 52 ce matin, hein, mais c'est une place où on vient adorer le Seigneur, où on vient le remercier, oui, pour les changements qu'il a opérés dans notre vie, oui, pour s'être révélé dans nos vies alors qu'on ne voulait rien savoir de lui, pour rencontrer des frères et sœurs qui ont la même espérance que nous, oui, pour partager ensemble. On a tellement peur d'aller voir des frères et des sœurs dire « Écoute, j'ai tel problème. » C'est vrai qu'il ne faut pas aller voir n'importe qui, ça c'est clair. Mais on est capable de trouver un confident ou une confidente à un moment donné dans l'Église, dire « Écoute, j'ai un problème avec ça, ma sœur, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin, mon frère, que tu pries pour moi parce que j'ai un problème là-dedans. » C'est ça la famille, hein? Moi, quand je vivais dans ma famille, j'allais voir mon père ou ma mère, je disais « Hey, man, j'ai un problème avec ça, man. » C'est quoi la solution? Surtout quand c'est amoureux. Ma mère, elle nous a dit « Laisse-la tomber, c'est pas fait pour toi, cette fille-là. » Ben voyons, maman, on dit ça souvent au Seigneur aussi. On lit la parole, on dit « Le Seigneur est au ciel, pour moi, il n'a jamais vécu ce qu'on vit. Hein? » Ouais. Mais c'est un peu ce que je disais à ma mère, moi. « Maman, tu n'as jamais sorti, toi. Écoute, tu as 8 enfants, tu n'as pas le temps de sortir dehors, tu ne sais pas comment ça se passe dans le monde, tu n'as jamais vécu. » Oui, mais mon œil, hein, elle connaissait beaucoup mieux que moi le côté amoureux. Hein? Oui, on a vécu des peines d'amour parce que j'ai pas voulu écouter ma mère. Hein? Et on a envie combien des peines parce qu'on ne veut pas écouter le Seigneur souvent. Combien de désastres on baigne dedans parce qu'on n'a pas voulu écouter le Seigneur. Mais je peux vous dire une chose, le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Et le Seigneur, il sait ce qu'on vit quand on a de la peine, parce qu'il s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qu'on a vécu, la parole elle nous dit qu'il est passé par là. Ouais. Alors on ne peut pas dire que Dieu, oui, mais Dieu est au ciel, il se croise les bras, les humains, il ne sait pas, lui, c'est un esprit. En Jésus-Christ, là, il a dit, je vais venir, je veux ressentir tout ce que ma créature ressent, les peines, les joies. Ouais. Alors, on a un Dieu qui nous connaît bien. Hein? Ouais. Et quand une mère perd un enfant, hein, on est à court de mots, mais on peut venir voir le Seigneur, parce que le Seigneur, il a perdu son fils, lui. Pensez que le Seigneur riait quand Jésus s'est fait crucifier. Pensez que le Seigneur avait deux bras croisés. Quand il a vu la souffrance, son fils qui ressemblait à une tranche de steak sur la croix, le Seigneur, il devait pleurer au ciel. Hein? Ouais, il devait pleurer, le Seigneur, quoi. Ouais. Ouais. Et vous imaginez, lui, qui se connaît toutes choses d'avance, qui entend son peuple crier d'être libéré de l'esclavage, qui savait qu'il y en avait juste deux qui rentreraient dans la terre promise. Eh bien, il a, par compassion, nous dit le texte biblique, c'est pour ça que je l'ai lu au début, par compassion, il va s'en occuper. Et le Seigneur, ici, ce qui va vous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y en a peut-être qui vont l'abandonner. Mais le Seigneur, par compassion, il continue à s'occuper de vous parce qu'il est votre Père, quoi. Ouais. On est un Dieu extraordinaire, on est un Dieu merveilleux. Quand on voit ce que les Israélites ont fait, ils savaient qu'après quelques jours, les Israélites regretteraient tous les bons repas, soi-disant, que les Égyptiens leur préparaient pour voir si les esclaves mangeaient à un banquet de noces, quoi, hein? Bien, les esclaves, ils mangeaient les restants, quoi. En Égypte, le chien était plus important que l'esclave. L'esclave, c'était le dernier de la catégorie. Il y avait le chien qui était juste au-dessus de lui. Ouais. Et on regarde ça, puis les Israélites, ils regrettaient ces bons repas. Quelques semaines après, contestent l'autorité de Moïse. Alors, ça voulait dire, quoi? Seigneur, tu aurais dû nous demander pour savoir qui on aurait dû nommer à la place de Moïse. Ça ne va pas, Moïse, hein? Ouais. On voit ça dans nos églises aussi, aujourd'hui, hein? Ah oui, hein? Frères et sœurs, heureusement qu'on a un Dieu qui n'est pas rancunier, un Dieu qui a une compassion extraordinaire pour ses enfants, pour son Église aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Église, quoi. Ouais. Ouais. Dieu va envoyer Moïse pour les libérer de la servitude et les faire entrer dans la terre promise. Dieu va envoyer Jésus-Christ pour nous libérer, pour qu'on puisse entrer dans la terre promise, dans le paradis promis, dans le ciel promis par Dieu. Ouais. Gloire à Dieu, frères et sœurs. La semaine prochaine, Dieu voulant, regardera les quatre premiers compromis, les quatre compromis que le diable a mis sur essayer de faire tomber Moïse. Et vous allez voir que c'est les mêmes compromis à laquelle il veut nous faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut reprendre le contrôle qu'il a perdu sur nous. Frères et sœurs, on va voir la semaine prochaine que chaque mot dans la parole de Dieu, elle est importante parce que c'est avec ça que le diable vient jouer, des petits mots. Ouais. Et nous, des fois, on fait un petit compromis, on pense que ce n'est pas grave, mais ça nous fait dégringoler, on ne sait pas jusqu'à quel point on va dégringoler. Ouais. Et heureusement que Dieu nous aime en Jésus-Christ. Heureusement que Dieu, quand on revient et qu'on confesse nos péchés, bien, il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner. Tout péché, nous dit la parole. Tout péché. Ouais. Et j'espère que vous êtes convaincus ce matin que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré ce que vous faites. Malgré vos infidélités, malgré mes infidélités, Dieu vous aime. Et Dieu ne se lasse pas de vous aimer. Ouais. Mais mon frère et ma sœur, en terminant ce message, est-ce que tu es esclave d'un péché quelconque ce matin? Dieu veut simplement te libérer. Tu viens en toute humilité devant lui, il va te libérer. Il a la capacité en Jésus-Christ de te libérer. Vous dites amen à ça ce matin. Dieu a la capacité en Jésus-Christ de vous libérer. Ouais. Dieu a la capacité en Jésus-Christ de vous affranchir de votre péché. Ouais. Dieu veut vous rendre libre. Libre de l'adorer, libre de le louer, libre de l'aimer et libre surtout de le servir parce qu'on est sauvé pour servir. Si on n'était pas sauvé pour servir, on n'aurait aucun don spirituel. Mais il y a des dons spirituels qui viennent avec le salut. Et ça veut dire qu'on est sauvé pour servir. Amen. On va s'élever, on va chanter un cantique.